Voici Carte Blanche avec Jean-Michel Tombini et Simon Guérini à la technique. Nous sommes avec vous une petite heure pour en savoir plus aujourd'hui sur Francis Marcante. Francis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous acceptez de jouer le jeu, Francis ?
Ah oui, puisque je suis venu maintenant, il faut que j'y reste.
Alors, on va débuter par votre naissance. Vous êtes né à Talazagne, et je crois que vous dormez dans le lit où vous êtes né.
Oui, écoute, j'ai ce privilège. Je pense que c'est d'ailleurs le seul dont je puisse jouir. Je dors dans le lit dans lequel je suis né. Voilà.
L'école primaire à Talazagne, avec des bons souvenirs.
Talazagne et Bastia pour l'école primaire, avec d'excellents souvenirs, que ce soit dans un lieu ou dans l'autre. Étant entendu que le lieu villageois va, lui, davantage me construire que le lieu citadin.
C'était une classe mixte ou il y avait des classes séparées ?
Une classe unique, mais classe unique. Si tu veux, nous avançons très vite. Mon dernier souvenir de CM2, Talazagne, nous sommes 27 dans l'église. La place de l'église est notre cour de récréation. À l'heure actuelle, il y a un enfant sur Talazagne qu'un véhicule récupère le matin pour amener un peu plus loin dans un regroupement scolaire que nous avons réussi à sauver. Et ça mesure là toute l'ampleur du drame auquel pour ma part j'assiste. Et puis ça me permet de dire et de tranquilliser toutes les personnes qui quelquefois me disent, souvent en parlant, en vous voyant faire, en vous écoutant, on a l'impression que vous êtes des hommes en colère. On n'est peut-être pas trop en colère sur le mode habituel, mais il y a quelque part de la douleur qui fait mal et qui peut s'apparenter à de la colère lorsque on remplace 27 élèves par plus rien, des tas de maisons occupées par plus rien aussi, eh bien ça fait monter un peu la tension.
Francis, souvenir d'un enseignant dans cette école primaire ou d'une enseignante ?
Oui, et puis en plus c'était ma cousine, ma demi-sœur, pour c'était son premier poste, et donc il y a toute une étape de la vie de notre communauté villageoise qui s'enracine à cette époque. Mais bon, il y avait les institutrices et instituteurs précédents, ceux qui les ont suivis, et ça fait une bien belle procession d'enseignants qui ont contribué à amener nos communautés villageoises là où elles sont arrivées.
Alors, vous êtes Francis le petit dernier, hein, d'une famille de trois enfants.
Trois enfants qui sont rapidement devenus six, puisque malheureusement mon oncle est décédé, ma tante est partie en sanatorium, et voilà comment nous avons récupéré mes cousines germaines avec lesquelles j'ai été élevé. Donc en fait, nous n'étions pas trois, mais six. Et je continuais d'être le petit dernier.
Donc le chouchou quelque part. Votre papa était adjudant-chef un petit peu partout dans le monde entier. Est-ce qu'il parlait de son métier?
Écoutez, c'est assez surprenant, mais il en parlait très rarement pour raconter certaines histoires. Mais après, comme dans beaucoup de familles, ces histoires qui revenaient devenaient lassantes, et après il s'était lui-même éteint dans ces histoires, et il en parlait peu. Et puis après, il y avait les douleurs desquelles il ne nous a jamais entretenus, et que moi, quelque part, j'ai appris. J'ai eu connaissance bien plus tard des choses terribles de la guerre de 14, hein, puisque je suis un enfant venu sur le très très tard, et que mon père s'était retrouvé à Verdun à 19 ans.
Vous me parliez de cette famille où vous avez accueilli vos proches, vos parents.
Oui.
Votre maman était un petit peu seule chef d'orchestre.
Elle a été chef d'orchestre, elle a été chef d'un orchestre qu'elle a essayé de faire jouer selon des partitions, de rigueur, de bon comportement, de sensibilité à la chose sociale, à la chose également poétique, voire d'une certaine projection dans l'imaginaire, puisque moi j'ai très souvent connu ma mère avec un livre à la main, et c'est dans cette difficulté-là qui était un véritable bonheur à vivre et qui m'a appris quelque chose que je vérifierai par la suite, c'est que les miens, ceux de mon village, ceux de cette communauté à laquelle je sais que j'appartiens, eh bien, c'était des gens qui étaient souvent de peu, voire de pas d'instruction, mais qui étaient des gens de qualité. C'est-à-dire qu'avant, l'ignorance était des qualités. Et lorsque je regarde un peu l'évolution, je me dis que j'assiste quelquefois avec douleur à beaucoup de savoirs qui sont devenus très vulgaires.
Est-ce que votre maman chantait, Francis Marcanté ?
Non, absolument pas.
Personne ne chantait dans la famille ?
Écoutez, oui, on passait nos étés, nos fins de soirée, voire même des soirées d'hiver à chanter, mais entre nous, à la maison ou dans le village. Et à ce titre-là, bon, par exemple, il n'y a plus de chant dans les villages. Vous ne pouvez pas savoir la douleur que ça représente pour moi. Il y a toujours une anecdote que je raconte. Il avait une voix merveilleuse, à ce point que quelquefois il se rasait en accrochant un petit miroir à sa fenêtre, et il se rasait avec le coupe-chou, bien entendu. Et il n'était pas rare d'avoir des gens qui étaient sous sa fenêtre, parce que lui avait la bonne habitude, le matin lorsqu'il se rasait, de chanter. Et c'était devenu une espèce de rituel. On allait écouter Batty chanter en se rasant. Parrainons-vous, c'est-à-dire, on a l'impression qu'on raconte des choses en les peignant de beau, en les peignant de rose, alors qu'elles étaient très 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 ordinaires et quotidiennes.
Alors, nous parlions de l'école, une partie de l'école primaire à Talazane, et puis ensuite à Bastia. Lycée, c'est en 62, c'est ça, 1962?
Oh, je quitte le
vous
lycée.
Vous quittez le lycée en 62, et là vous allez jusqu'à la Seine-sur-Mer.
Oui, je vais à la Seine-sur-Mer parce que ma Nini, ma sœur, y avait été nommée. Et donc mes parents décident d'aller la soutenir. Nini venait d'être maman. Et voilà comment j'atterris à la Seine-sur-Mer pour faire seconde, première et terminale à la Seine-sur-Mer, au lycée Bossu.
Alors, est-ce que vos parents vous influençaient sur votre avenir, ou est-ce que c'est vous-même qui avez choisi de vous rendre dans une école d'ingénieur à Lyon?
Non, vous savez, la grande différence d'avec maintenant, c'est que l'époque était tellement généraliste et faisait tellement confiance à son système d'éducation et de promotion que on n'avait pas le souci de savoir ce qu'on allait devenir, etc. Nous sommes à une époque de plein emploi. Je fais ma mathélème, je ne pense même pas à ce que je vais faire l'année suivante, quoi. Mais jamais je n'y ai pensé. De la même manière, on m'a dit, bon, tu vas à l'INSA, tu vas à Lyon, j'ai passé un concours, un entretien, une espèce de sélection. Et nous étions cinq à la passer du lycée Bossier, j'ai été le seul retenu. Donc je me retrouve à Lyon, et puis bon, voilà, et puis après, je rejoindrai Nice les années suivantes, et puis, mais sans préoccupation aucune sur le devenir. Je me voyais mal à un moment donné, bon, je pouvais intégrer une année pour être ingénieur de travaux publics. Ça me branchait pas du tout. J'ai rejoint la fac, quoi. Mais sans problème à l'époque.
Alors on va revenir à la fac dans quelques minutes. On va entendre l'un de vos choix musicaux. Alors je veux dire que j'ai retrouvé dans les archives de l'Institut de l'audiovisuel, donc le son est d'époque, le joueur de flûteau de Brassens. C'est pas une chanson qu'on entend souvent?
Bah oui, mais dans ce qu'elle véhicule dans son thème, c'est quelque chose qui moi m'a souvent ému et puis par la suite m'a fait réfléchir. Et c'est un texte sur lequel, je pense, on peut continuer de se pencher et qu'on peut le donner à la critique collective, localement et par-delà la mer.
Eh bien, on le retrouve tout de suite, Georges Brassens, le joueur de flûteau.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon lard se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et mon pauvre petit clocher me semblerait trop à percher, je ne plierai plus les genoux devant le bon Dieu de chez nous. Il faudrait à ma grande âme tous les saints de Notre-Dame avec un évêque à la clé. Mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays. Le joueur de flûte a trahi. Je serai honte de mon sang, des aïeux de qui je descends. On me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu. Je voudrais un magnifique arbre généalogique avec du sang bleu à la clé. Mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je ne voudrais plus épouser ma promise, ma fiancée. Je ne donnerai pas mon nom à une quelconque ninon. Il me faudrait compagne, la fille d'un grand d'Espagne, avec une princesse à la clé. Mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Le petit joueur de flûteau fit la révérence au château, sans armoirie, sans parchemin, sans gloire, il se mit en chemin vers son clocher, sa chaumine, ses parents et sa promise. Nul ne disent dans le pays, le joueur de flûte a trahi, et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
Avec notre invité qui aujourd'hui est Francis Marcante. Alors Francis, nous parlions de vos études et après l'école d'ingénieur à Lyon, ça sera la fac de sciences à Nice. Vous en conservez de bons souvenirs ?
Plus que de bons souvenirs, pour moi c'était le paradis. Le paradis pour plusieurs raisons. Le paradis parce que l'époque était très 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 euphorisante. On aura peut-être l'occasion de préciser certaines choses. Et ensuite parce que je retrouvais moi le milieu corse dont je n'avais d'ailleurs jamais été totalement extrême. Mais je le retrouvais dans une fréquentation quotidienne après avoir été, et la coupure avait été, je dois l'avouer, très 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 difficile lorsqu'à 16 ans vous quittez votre classe de 3e pour découvrir un autre univers dans lequel je n'ai eu aucun problème, mais en même temps il y avait tout à la fois du bonheur et du malheur très 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 fort, très acéré, parce que on ne quitte pas la Corse sans dommage. Et moi, je faisais partie de ces déracinés-là. Donc, le retour et les retrouvailles avec, avec mes compagnons de lycée de quelques années avant, dans une période très, d'une richesse incomparable avec pas de problème de, d'emploi, pas de problème de sida. Imaginez, lorsque vous avez 20 ans là-dedans, ce que ça peut donner. C'est le bonheur absolu.
Alors, est-ce que vous acceptez, Francis Marcanté, de vous prêter à un petit jeu ?
Oh, si vous voulez, alors ça ne sera aucun problème.
Alors, on va entendre quelqu'un, et vous allez essayer de deviner qui il est. Alors, bien évidemment, on s'installe dans cette période de jeunesse. Allez, on va dire bonjour, monsieur.
Bonjour. Francis.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de Francis, justement, dans ces années-là ? Parce que je crois que vous l'avez connu.
Ah oui, je l'ai très bien connu. Nous nous sommes fréquentés assidûment à cette époque-là. Mais nous nous connaissions un peu avant, quand même, parce que quand nous étions gamins, en haut de la rue du lycée où il habitait, il y avait, dans son immeuble, il y avait sur le toit une terrasse et on jouait souvent ensemble là. Mais c'est vrai que c'est la période de la fac qui nous a le plus rapprochés, quand même.
Alors, vive Soubise.
Ben voilà.
Ah. Oui, moi je l'ai quand même laissé aller au bout de sa phrase.
Oui.
Au bébé, comme vous dites.
Bah, et tout, aussi.
Quando mi sento come mi sento soprattutto meglio.
Je sais que vous voyez un petit peu moins souvent qu'avant.
Oui, on sait quand.
Je suis sur le continent et Francis est à Lasagne le plus souvent, mais on essaye de se voir quand même régulièrement quand je viens en Corse.
Eh bien, Monsieur Soubise, merci d'avoir fait une petite surprise à Francis Marcanté. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Eh bien, merci beaucoup et à vous aussi. Et au Vancy, passe à Dilera, les Ovioulines.
E anche tu vivi. Baciami, baciami Gianni a Doviola. A presto.
Ok, à plus. Ciao.
Au revoir, ciao. Au revoir, Sylvestre. Je dois dire, Francis, que c'est grâce à la complicité de vos filles que j'ai trouvé Sylvestre.
Ah bon ? Ah bon ?
Eh oui.
Mes filles sont embarquées dans l'histoire.
Ah bah oui. En général, j'ai
mais
beaucoup de complicité.
Je dois dire, Joël, bébé, bien sûr, bébé, c'est une des personnes les plus proches de moi, mais également une des personnes les plus remarquables qui m'ait été donnée de rencontrer. Bébé a une intelligence fulgurante et c'est un véritable bonheur de partager des choses avec lui. Et on en a partagé beaucoup, des belles et des moins belles. Ceci dit, par rebond, pour ceux qui étaient évoqués précédemment, les parcours qui ont été les nôtres, et, par exemple, moi, j'ai, avec le père de Vévé, mon oncle, qui était, tu sais, on grandit toujours dans une famille avec une mère et un totem masculin, qui est ton père, ton frère, quelqu'un d'autre, etc. Mais il faut toujours le pendant de la mère. Et chez moi, le pendant de la mère de mon éducation était mon oncle, Pierre Baptiste, qui était instituteur à Talazagne et qui ensuite a rejoint Bastia, qui était un militant de la première heure du monde laïque, et il a créé avec le père de Vévé et Modeste Ventour, ils avaient créé l'Ufoléis avec la Falep, avec le et c'est pour ça que la dimension des œuvres laïques, la dimension de toute cette éducation populaire est quelque chose qui avec lequel j'ai l'impression d'avoir tété ça en même temps que le sein de ma mère. Et après, ça explique des parcours, c'est-à-dire lorsqu'on est confronté à cette grande espérance qui a porté le XXe siècle, eh bien, ça laisse des traces au plus profond de soi-même et que on essaye ensuite tout à la fois de se réaliser, mais en restant fidèle à ses origines Et moi, c'est une dimension qui explique aussi le petit joueur de flûteau, c'est-à-dire cette dimension de paysanne. Moi, je suis fils de paysan, je sais que je suis enfant de mon village, et ensuite, il y a eu ce mouvement dans lequel je me suis inclus, d'une certaine manière, avec quelquefois des idées en totale opposition avec les personnes qui étaient avec moi.
Justement, c'est en 68, vous vivez les événements à Nice.
Ah oui, pour nous, 68, bon, ça prendra une émission pour raconter 68.
On en refera une.
Non, parce que ça démarre pour nous en février 68. Après, au mois de mai, on prend une voiture, on monte à... Je vais le raconter très vite. En 68, on prend une voiture, on monte à Paris. Moi, comment je suis? J'ai un pantalon rouge, j'ai une peau de mouton, j'ai des cheveux sur les épaules. On arrive à Paris, on dit, tiens, là, il y a de la place. Finalement, on est le long de la Seine et collé à la préfecture de police. Et il y avait de la place, personne ne s'est égaré. Donc, passe une patrouille. Il s'est trouvé qu'on avait deux voitures, mes papiers étaient dans l'autre, j'avais pas de voiture, il m'embarque et il me présente à deux CRS Corse. En me disant, bon, le type, il a un pantalon rouge, il vient de Nice, il a pas de papier, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ils me font interroger par deux CRS Corse, mais je conserve un souvenir, mais je ne sais même pas maintenant si c'est comment j'étais, quoi. Parce que les types ont parlé en Corse, ils voulaient me faire dire que j'étais monté pour avec des armes, avec des trucs. Moi, j'étais monté faire la fête et la révolution, si possible aussi, mais, et voilà un peu comment ce truc. Après, j'ai été embarqué, j'ai été roué de coups, j'ai passé 48 heures en prison.
Ah, carrément, vous avez été roué de coups.
Oui, mais parce que c'était normal. Enfin, je veux pas dire que c'était normal, parce que c'est pas normal, mais lorsque, vous savez, si vous rentrez j'étais enfermé à Beaujon, et donc à Beaujon, il y avait des salles, mais il devait y avoir 400 ou 500 CRS là-dedans qui attendaient de monter dans des cars, etc. Donc on leur jette une espèce d'ahurie, pantalon rouge, là, en pâture, et donc bon. Ils se sont certainement un peu amusés avec moi, mais je réagissais très, 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 très mal, et voilà comment j'ai passé 48 heures en prison. Je sors, ils me disent, bon, si on te reprend, tu en as pour, bon. Heureusement, je connaissais quelqu'un qui m'a donné un pantalon vert, mais il mesurait 1m60 et moi 1m80, et donc le pantalon, il m'arrivait au milieu des mollets, et je rencontre quelqu'un qui travaillait à la préfecture de police, Sylvain, c'est comme mon frère, on a fait le club ensemble avec Sylvain. Sylvain travaillait à la préfecture de police, il me fait rentrer, il me fait faire une carte d'identité en 2 minutes, parce qu'il était quand même bien placé dans l'administration de la police, là, à la PP, et voilà comment je me retrouve au mess des officiers, à manger avec des officiers de la police, etc. Bon, et après, bon, Odéon, Sorbonne, les Katanguèmes, enfin, voilà, c'est une belle histoire, mais il faudrait une émission pour raconter ça. Donc 68, oui, non seulement j'ai vécu, mais au-delà de, après ce qu'on a pu faire avec le club, etc., etc., nous initions, nous, une démarche en 1965, donc nous sommes dans le pré-68. On est dans une l'affiliation ou l'origine, si on veut mieux connaître un peu ce qui s'est passé par la suite, c'est dans ces années-là qu'il faut aller la pêcher. Alors bien sûr, après il y aura les années 70, il y aura 75, il y aura tout ce qu'on a connu depuis, mais nous, notre origine, c'est 10 ans plus tôt.
Vous m'avez dit, Francis Marcanté, avoir vécu une période politique. Enfin, vous m'avez dit, ma génération était faite pour faire le monde.
Pour changer le monde.
Pour le changer.
Moi, ça continue de me surprendre. Pour moi, et je vois autour de moi les gens qui sont un peu de ma génération, qui ont vécu ce parcours d'engagement et de militance ou de militantisme, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment il faut le poser? Comment il faut le résoudre? Quelles solutions on peut amener? Nous avons rêvé notre monde de proximité, nous avons rêvé notre village, nous avons rêvé notre région, nous avons rêvé notre île, nous avons rêvé son histoire, son peuple, son devenir, en élargissant très vite à la France, à l'Europe et au monde. Mais c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire que à l'époque, celui qui ne s'occupait que de ses problèmes et encore plus de ses intérêts, eh bien, c'était le fou. Il n'était pas normal. Alors que maintenant, c'est exactement l'inverse. Et moi, j'ai vu l'évolution à tel point que, et pour faire vite et en raccourci, à l'heure actuelle, je suis, pour ma part, le dernier des oseaux. C'est-à-dire celui qui pense encore que le bénévolat dégagé de tout intérêt, profondément, etc., a encore un avenir, a encore une place. Et je vois l'homo economicus tout envahir tous les champs. Alors, bien sûr, il a une enseigne alléchante, c'est celle de la modernité. Et en plus, le changement, c'est devenu son affaire. Et donc, je le vois tout envahir, toutes les sphères sont envahies par cette dimension-là. Si vous voulez, ça m'étonnerait pas dans ce droit fil là. Hein. J'ai vu l'humanitaire devenir une filière. J'ai vu la charité devenir un business. Et j'ai surtout vu. Et c'est une douleur. Mais pour moi, journalière permanente, je vois le vocationnel, tout ce qui était du domaine de la vocation, céder le pas sous des coups, mais très 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 durs, au professionnel. On veut que le professionnel remplace le vocationnel. On ne veut plus qu'il y ait de passion, on ne veut plus qu'il y ait de mission, on veut des contrats, on ne veut plus de hobby, on veut des jobs. Eh bien moi, c'est exactement l'inverse. Et donc, la mutation, elle est douloureuse, je dois le dire.
Mais je pense que quand même, Francis Marcantelli, vous n'êtes pas le seul zozo en Corse.
Non, mais après, je suis obligé de me situer, moi, dans les cercles et de regarder dans les comportements, dans les manières de dire ou de ne pas dire, puisque nous avons quand même un petit bagage surtout avec notre culture de la formation inter-individuelle que nous ont donné nos villages. On voit bien quand est-ce que on est audible et quand est-ce qu'on est à côté de la plaque. Mais ça ne me dérange finalement pas ou peu, puisque bon, à un moment donné, quelquefois, il y a des chemins qui sont des chemins faciles parce que tout le monde les emprunte. Et puis après, il y a des pistes qui sont arides. Et à l'heure actuelle, celle qui est la nôtre, c'est-à-dire dans l'associatif, dans le rural, dans la permanence, c'est une piste très 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 aride, mais je me taille, je me construis, je m'aiguise à cette piste aride. C'est comme ça. Il n'y a pas à dire c'était mieux avant. C'est puis non, il faut pas pleurer. Hein. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Eh ben, on fait comme ça.
Alors, on va entendre un autre choix musical qui est le vôtre, la symphonie numéro 7 de Beethoven, et on se retrouve tout de suite après. C'est Carte Blanche avec Francis Marcantey. Francis, nous parlions eh bien, de votre parcours et nous n'en avons pas fini. Nous parlerons bien évidemment de l'association du Tawania Club. Mais avant cela, vous allez être professeur dans les années 71, professeur en 72 en terminale S. Quel professeur êtes-vous? Êtes-vous un professeur exigeant, rigoureux, à l'écoute? Parce que pour les sciences, c'est pas facile. En fait, on peut pas se permettre trop de fantaisie.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. La science, c'est le domaine le plus proche du romantisme qui m'a été donné. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, le professeur que j'ai été, je ne sais pas, moi, je rencontre beaucoup d'anciens élèves qui viennent me saluer ou que je reconnais moi-même. Et la seule question que je m'autorise à leur penser, c'est, écoutez, le souvenir est-il traumatisant? Lorsqu'ils me répondent non, je suis rassuré. J'étais certainement quelqu'un d'assez... En même temps, je pense que les élèves ont souvent perçu, par ce qu'ils me renvoient, le fondant au chocolat. C'est-à-dire qu'ils sentaient tout à la fois les deux choses qui pour moi ont été essentielles dans ce métier extraordinaire. C'est-à-dire ils sentaient tout à la fois la dimension de l'affection, parce que pour moi il ne peut pas y avoir de pédagogie s'il n'y a pas d'affection vraie par rapport aux gens avec lesquels face auxquels on se trouve, et puis ensuite la pellicule, la carapace peut-être un peu plus rigide, un peu plus exigeante, mais avec laquelle il faut aussi se coltiner parce qu'elle fait partie de la formation. Voilà, après dire que je ne sais pas le profil. Par contre, ce que je dois avouer, je ne l'ai jamais dit sauf la dernière année, et je continue maintenant de le dire, et je vois que je suscite le sourcil en accent circonflexe, je n'ai jamais eu l'impression de travailler.
Ah, ça, c'est plutôt une chance.
Jamais je n'ai eu l'impression de travailler, et je dois mettre ceci en parallèle avec ce que je vis maintenant que je suis à la retraite, je n'ai pas l'impression de me reposer. C'est-à-dire que pour moi, c'est exactement la même chose. On essaye de faire le moins mal que l'on peut ce qu'il y a à faire. Et ça recoupe quelque chose avec lequel j'essaye de mettre mes idées en ordre sur la place de l'individu dans la société dans laquelle il est obligé de vivre. Parce que s'il ne vit pas en société, l'homme est un animal. Mais pour vivre en société, il faut être un peu doué, et il ne l'est pas. Et donc voilà un peu le paradoxe avec lequel il se débat en permanence. Et pour moi, un homme doit être utile à la société qui est la sienne de sa naissance à sa mort. Et me repenchant sur ma vie de fils de paysan, des idées Louis de Lasagne, je sais que de ma naissance, j'ai toujours eu une place, quelque part, de réjouissance, d'intérêt, de petit travail, de contribution, d'illumination, de plaisir partagé, d'histoire à dire ou de souvenirs à rapporter. Mais j'ai toujours eu une place après celui qui fait, celui sur lequel on compte, et j'espère pouvoir être utile au moins au mien jusqu'à moi. Et je pense que l'avenir pour nos sociétés, est à penser sur ce registre-là. Trouvons à chacun, de sa naissance à sa mort, une place qu'il sera non seulement utile à la société, mais parce qu'elle est utile à la société, sera un élément de son grandissement personnel, et qui doit durer toute une existence.
C'est ce que vous avez transmis, vous êtes papa, vous avez deux filles, Gaëlle et Carla. C'est ce que vous leur avez transmis dans la démarche?
Je ne sais pas ce que j'ai transmis. C'est ce que je réussis très 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 laborieusement à mettre en forme. Après ce qu'on transmet, je pense que C'est sans doute valable pour les pères comme pour les enseignants. Il y a beaucoup plus de choses qui se transmettent par la manière d'être, beaucoup plus que par le dit, par le... Moi, de mes professeurs, je ne garde que le souvenir de comment était-il en tant qu'individu et non pas le contenu de ce qu'ils m'ont transmis à proprement parler. Et en général, lorsque le contenu est resté, c'est qu'il y avait autour une personnalité qui était une personnalité qui m'allait. Je ne sais pas si elle était bien, je ne veux pas rentrer dans des jugements de valeur, mais en tous les cas, je rentre dans un domaine qui me semble être un domaine éminemment humain, c'est celui des affinités électives.
Alors, vous me parliez de la naissance de votre association qui part de la phrase « et si on faisait ?». Donc, une idée qui débute dans les années 65, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Il y aura ensuite 68. Et dans un document que vous m'avez confié, le mot « club » signifie la naissance dans le temps. Nous n'aurions pas pris le même nom 15 ans plus tard.
Oh oui, certainement, certainement. On se serait appelé Squadra, Movimento, Anda, etc., etc. Si on prend les années d'avant, par exemple, le Sporting Étoile Club de Bastia, s'il y a un club qui est à naître maintenant, il s'appellera jamais Sporting ni club. Ce sont des mots qui signent une époque. Je pense que le vocabulaire est un vocabulaire qui est historiquement daté. Nous, Tavagna Club, c'est tout à la fois la dimension locale, mais la dimension club, elle signe notre naissance, 65.
Et vous êtes combien à l'origine ?
La première fois où on en a parlé, nous étions trois. C'est l'époque où le soir, les gens se promenaient. Maintenant, il n'y a plus cette habitude-là dans les villages, à Spasidia. On passait notre temps sur les routes à se promener, etc. Alors après, avec des jeunes des villages à côté, on se retrouvait à mi-chemin, on avait des guitares, on chantait. Bon, et en 65, à Vuntanisauro, Kuntalazan, il y a Mathieu, il y a Sylvain, et j'y suis. Moi, je viens d'avoir mon bac, et on dit, il y a quand même peut-être, si on faisait un club. Bon, allez, faisons un club. L'année d'après, en 66, on a passé le mois d'août à écrire les statuts. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de statut préétabli. Sylvain avait été étudiant à Aix quelques années avant. Et ensuite, il était à la préfecture de police à Paris. C'est lui qui allait me recevoir trois ans après à Paris. Et donc, Sylvain, on avait écrit les statuts à la main. Et d'ailleurs, on les a conservés. Hein. Ils sont toujours en notre possession. Ensuite, j'ai envoyé ça à Paris à quelqu'un qui travaillait dans les assurances, qui était de ma famille. Il les a fait taper par une sténo. Et après, on les a déposés. C'est quelqu'un qui les a déposés le 27 novembre 1965 à la sous-préfecture de Bastia. Et ça, Joël, la sous-préfecture de Bastia était à l'époque dans les locaux de Corsica Libera de maintenant.
D'accord.
Les locaux de Corsica Libera à Bastia étaient la sous-préfecture de Bastia. Et voilà où on a déposé les statuts en novembre 65.
Alors, le groupe...
66, pardon.
Le groupe Tavagne, avec son premier album, c'est en quelle année ?
Ben, en 69, il y en a un qui dit « Ah, ce serait bien de faire du théâtre. Il y a une pièce de Tintin Pasqualini qui est belle, etc. » Ben, faisons du théâtre. Et deux ans après, en 71, quelqu'un d'autre dit « Bon, c'est bien, maintenant, on a joué des dizaines et des dizaines de fois ce qu'on a dépouillé, on va passer ma peine à Strafari. Et si on faisait un spectacle à nous ?» Et voilà comment on écrit un spectacle à Oedia. Mais c'est déjà symptomatique à Oedia. Ensuite, toutes les soirées en Corse vont s'appeler Beyagours, Oedia, etc. C'est-à-dire ça, pour nous, c'était la manière de faire revivre ce qui était en train de nous manquer le plus, c'est-à-dire Oedia. Ubaese, Kissideniaga, Londuenandama, Beyaun, Londellastro, etc., etc. Tout ça était en train d'être fortement ébranlé par les années 60. par la fin des années 60. Et donc, nous, on reconstitue une veillée dans laquelle il y a les personnages clés du village. Le maire, le curé, le berger, l'amoureux, le fou, etc. Ce qui nous permet de faire du collectage, énormément de collectage. On réapprend on réapprend des morceaux de violon, on réapprend des poésies. C'est la raison. Et par exemple, moi, je savais même pas que ma mère connaissait des poésies. À un moment donné, on parle comme ça à table. Et là, à un moment donné, elle pose sa cuillère et elle me récite Talazani. Qu'avait fait quelqu'un mis au début des années 900 sur notre village, un poète qui s'appelait Borghetti. Et voilà comment Talazani arrive. Puis après, je retrouverai sa trace écrite dans Mouvre ou dans l'Almanach, mais des années après. Et donc là, on s'aperçoit que tout à la fois, nous avons une partie de notre mémoire qui est encore à portée de main, mais que tout ça, c'est en train de foutre le con. Mais on ne sait pas le dire, on ne sait que le vivre, et donc on met Aveglia en scène. Et puis Aveglia, tellement de collectages, tellement de chansons, tellement de trucs. Un jour, elle a dit, mais bon, et si on faisait un disque? Ah, faisons un disque. Et voilà comment on fait un disque. Mais le disque, après, il faut le défendre sur scène. Et on le défend sur scène en 1980, par une représentation à Bastia. Et donc, moi, c'est un des rares concerts que je n'ai pas fait de Tavagna, parce que pour cette première apparition en public, où il y a énormément, énormément de monde, bien moi, je viens de perdre ma sœur et je suis dans l'incapacité de chanter. Je peux pas. Donc, ce premier concert, je ne le fais pas. Et voilà, à partir de là, après, Tavagna va avoir son existence autonome.
Et puis, s'en suivra quand même bon nombre d'albums. Alors, vous nous faites
une
cadeau.
Quinzaine, oui.
Ouais, vous nous faites un cadeau ce soir. Il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. C'est Opium. C'est une version qui est prévue sur un prochain album.
C'est un album qui est enregistré depuis des années, et comme nous sommes quelque part souvent des fonceurs, mais en même temps des dilettantes et des paresseux, c'est un album qu'il faut que nous fassions sortir. Et Opium, en fait, on a essayé de mettre dans un album dont le titre est connu. Hein, on a le producteur, on a tout. Il suffit de le presser, de faire les trucs et de le sortir. Il va s'appeler Tsivre di Paraiso, c'est-à-dire des brouillons de paradis. Et nous avons essayé de mettre comme ça, mais pêle-mêle, et dans des enregistrements qui sont sur le vif, un peu les contenus de nos soirées d'après-concert. C'est-à-dire, en général, on chante une heure et demie sur scène, et après 4 heures, 5 heures dans des hôtels, dans des halls de gare, dans des restaurants, etc. où on ressort des tas de choses. Et Opium, c'était quelque chose que Jean-Claude, que nous allons entendre, chantait merveilleusement bien.
Eh bien, on l'écoute tout de suite. Jean-Claude, oui. À qui vous rendez hommage quand même, là, quelque part.
Oui,
en choisissant ce titre.
Oui.
Dans le port de Saigon, est une jonque chinoise,
Saigon,
mystérieuse et sournoise,
Saigon,
dont on ne connaît pas le nom,
c'est Saigon.
Et le soir dans l'entrepont,
Saigon,
quand la nuit se fait complice,
Saigon,
les Européens se glissent,
Saigon, Saigon,
cherchant des coussins profonds,
c'est Saigon.
Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis. Les yeux, le monde.
parfum lourd.
Saïgon, Saïgon.
Les lanternes qui se voilent.
Saïgon, Saïgon.
Sont des petites étoiles.
Saïgon, Saïgon.
Qui scintillent tour à tour.
C'est Saïgon.
Et parfois dans leur extase.
Saïgon, Saïgon.
Au gré de la fumée lente.
Saïgon, Saïgon.
Le fumeur se présente.
Saïgon, Saïgon.
Ses plus beaux rêves d'amour.
C'est Saïgon.
Opium, oison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi. Paradis enchanteur,
Saïgon, Saïgon,
plein de merveilleux mensonges,
Saïgon, Saïgon,
dans l'ivresse de mes songes,
Saïgon, Saïgon,
je laisse pendre mon cœur.
Carte blanche, carte blanche, carte blanche, carte blanche, carte blanche. Alors, désolé Francis Marquanté, on a coupé un petit peu la chanson, mais il nous reste très peu de temps. Et moi, on aura l'occasion de parler plus longuement de ce qui vous est très cher, à savoir justement le Tavagna Club, qui reste maintenant avec un côté restauration, qui ouvre des soirées festives et qui gagne quand même quelque part pour moi son pari. Mais moi, je voudrais reprendre une phrase que vous m'avez dite, « Je ne suis que Corse et je marche dans le monde ».
Oui, parce que bon, ce phénomène de l'identité est quelque chose qui devient une interrogation récurrente. Et donc, on a essayé, nous, chacun y contribue à y amener une réponse ou des précisions, etc. Collectivement, on a amené une réponse avec ce qu'on appelle, nous, les lundis de l'identité, où on est en liaison et en lien et en travail commun avec des artisans et des producteurs, 25, et on fournit des pistes, le savoir-faire, le savoir-construire, le savoir-produire, et donc pour un peu mieux approcher l'identité des hommes de notre terre. Et à côté de ça, la réflexion se poursuit individuelle. Et moi, j'en suis arrivé à cette chose qui est paradoxale lorsqu'on l'a dit, mais en même temps qu'il pose le problème du local et de l'universel, qui, comme le disait Pessoa, c'est le local sans frontières. Et donc, moi, j'en suis arrivé à dire comment je me considère et en même temps comment je me situe. En fait, moi, je le dis ainsi maintenant, je ne suis que Corse et tous les matins, lorsque je me lève, je marche dans le monde. Et qu'il faut que je fasse l'un et l'autre en donnant aux deux directions et aux deux dimensions une complémentarité et une harmonie que je puisse mettre au service de la solidarité de tout ce qui m'entoure, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain. Et c'est un bel exercice.
Oui, mais qui va prendre toute une vie.
qui va prendre toute une vie. Qui va prendre toute une vie, mais je crois que c'est un exercice plaisant de savoir que, on est, On est de là, que tous ces référents sont là, qu'on entend des, moi, il y a par exemple des discours sur les communautarismes que j'interroge. J'ai toujours vécu dans la communauté corse. Alors, lorsqu'on me dit les communautarismes, etc., je comprends ce qu'on veut dire d'un point de vue politique, mais d'un point de vue humain, je comprends quelquefois moins. Je n'ai jamais voulu sortir de ma communauté et j'aurais très très mal accepté que quelqu'un d'autre en ait la prétention.
Eh bien, je vous remercie infiniment, Francis. J'espère qu'on se retrouvera sur cette antenne, mais là, pour vraiment faire un spécial Tavagna Club. Mais c'est un petit peu vous qu'on espérait mieux connaître et qu'on connaît un petit peu mieux. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.
Et merci ensuite, à toi et merci à vous tous.
Et on se quitte avec le dernier choix musical qui est le vôtre. Je pense que ce sera Mercedes Sosa. À bientôt. Au revoir.
Alfonsine Ayelmar.
La mandarina que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal la está llamando y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida.